Que le Seigneur soit béni. Nous sommes heureux de nous retrouver sous son regard afin de faire peut-être une expérience avec Dieu. Je pense que dans la Bible, il n'est pas tout écrit. Vous êtes d'accord? Est-ce que tout est écrit dans la Bible? Non. Il y a des personnes qui sont certainement passées à côté de la bénédiction parce qu'elles n'ont pas réagi lorsqu'on leur a parlé de Jésus. Vous le comprenez? Il y a des gens à qui on a dû parler de Jésus. Les gens disent, oh, c'est pas grave, on verra bien. Je suis convaincu que beaucoup de gens sont passés à côté de la bénédiction parce qu'ils n'ont pas fait une démarche spirituelle. Et nous allons voir ce soir l'histoire d'une femme qui a été bénie. Tout d'abord, on va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 17. Il nous est dit dans ce texte que le jour où Jésus était sur ce plateau, il y avait des gens d'un peu partout, et en particulier d'une certaine ville. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une foule sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Donc vous voyez à la fin du verset 17 qu'il est écrit que parmi tous ces gens rassemblés, eh bien il y avait des gens de Tyr et de Sidon. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, nous voyons que justement Jésus arrive dans cette contrée très, très éloignée, donc c'est le Liban aujourd'hui, de Tyr et de Sidon. Regardez avec moi Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : Seigneur, secours-moi. Il répondit : Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit : Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Et on peut bénir Dieu que des histoires vraies comme celle-ci soient dans le canon des Écritures. Ça nous permet également, eh bien, de croire d'abord que Dieu est capable de bénir nos enfants, de bénir quelqu'un qui est malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un de malade dans votre famille? Est-ce qu'il y a un de vos enfants qui est peut-être loin, qui est malade? Est-ce que ça peut arriver? Qui est tourmenté par la puissance des ténèbres, etc. Donc nous voyons une femme qui est déterminée. On voit que deux fois dans l'évangile, où Jésus a dit à deux personnes, un officier de l'armée romaine et cette fameuse syrophénicienne, à qui Jésus a fait cette louange extraordinaire, « Femme, ta foi est grande ». Est-ce que vous aimeriez recevoir le même éloge de la part du Seigneur? Non pas par orgueil, mais simplement par grâce, et de croire que par la foi, on peut faire, par la confiance, on peut expérimenter tout à nouveau la puissance de Dieu dans notre vie. J'ai pris ce texte dans l'évangile de Luc pour vous expliquer que c'est certainement quelqu'un de Tyr et de Sidon qui était là-bas à Jérusalem le jour où Jésus a manifesté sa puissance, qui est revenu au Liban actuel et qui a dit à cette femme : Tu ne sais pas ce que j'ai vu à Jérusalem, mais tu ne sais pas ce que j'ai vu. J'ai vu ce Sauveur, tu sais, ce Seigneur Jésus, on dit qu'il est le Messie. Si tu savais ce qu'il a fait, si tu savais ce qui s'est passé, ce que j'ai vu à Jérusalem. Et cette femme a cru dans le fait que Jésus-Christ était le Messie. Parce que si vous venez dans une église et que vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Sauveur, si vous venez dans une assemblée ou une église, quelle que soit la dénomination, et vous croyez tout juste que Dieu existe, mais vous ne savez pas si les prières s'arrêtent au plafond, laissez-moi vous dire que ça ne changera pas grand-chose. Cette femme, elle était convaincue que Jésus-Christ était le Sauveur du monde, le Messie. Et elle a fait toute une démarche, et cette démarche, malgré tous les obstacles, va aboutir à une expérience extraordinaire que le Seigneur, non seulement veut nous bénir, mais il est capable de bénir quelqu'un qui est loin de chez nous et qui est possédé par la puissance des ténèbres. Est-ce que ça peut arriver que dans nos familles, il y ait des gens qui soient atteints par la puissance des ténèbres ? Vous savez, nous, on se dit, mais comment Dieu va faire ? Eh bien, croyez que Dieu est capable de délivrer quelqu'un qui est saisi par la puissance des ténèbres. Vous savez, la vie, elle est faite d'épreuves. Vous le savez, je ne vous apprends rien. La vie est faite de difficultés, de problèmes, de contrariétés, de moments difficiles. On a tous des moments difficiles, même très difficiles. Et les circonstances peuvent nous atténuer. Et il se peut que cette femme, cet homme qui avait témoigné à cette Syrophénicienne, tu sais pas, je suis convaincu, moi, qu'à Jérusalem, il y a le sauveur du monde. Peut-être elle a dit à d'autres qui avaient des problèmes. Mais ces autres, dont il n'est bien sûr pas mention dans la Bible, n'ont pas fait la démarche. La démarche, c'est à chacun de nous de la faire. Cette femme, elle a voulu se retrouver au pied du Sauveur. On peut se demander, mais qu'est-ce que Jésus faisait là-bas à Tyr et à Sidon ? Eh bien, le Seigneur Jésus se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et si vous le cherchez, il est certain que vous le trouverez. Parfois, on se demande, qu'est-ce qu'on fait dans l'Église ? Ça vous est jamais arrivé de vous dire, mais pourquoi moi ? Pourquoi le Seigneur m'a-t-il touché ? Pourquoi le Seigneur m'a-t-il attiré à lui ? Ça vous est jamais arrivé de vous poser la question ? Quand vous voyez des gens que vous connaissiez, qui étaient meilleurs que vous avant, et qui sont aujourd'hui toujours dans les ténèbres, toujours dans la peine, qui étaient plus religieux que vous ? Est-ce que j'exagère ? Non. Et vous, qui étions vraiment loin de Dieu, nous avons été rapprochés. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu à un moment donné cette grâce sur nos vies, cette grâce d'avoir soif de lui, de vouloir faire la démarche. Cette femme, elle s'est levée peut-être un matin, ou elle s'est réveillée en pleine nuit, elle a dû se dire, mais ce sauveur qui est à Jérusalem, il faut que je le rencontre. Peut-être qu'elle, elle ne pouvait pas aller à Jérusalem. Vous savez, aujourd'hui, on se déplace facilement. Mais n'oubliez pas qu'à cette époque-là, on ne faisait pas 200 ou 300 kilomètres comme ça facilement. Donc, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui s'est déplacé pour aller vers cette femme. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur saura venir vers vous par la puissance de son esprit pour vous rencontrer. Il vous suffit de croire en lui, d'ouvrir votre Bible et de dire, Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce comme tu as fait grâce à cette femme. Cette femme avait de gros problèmes. Vous savez, il y a des problèmes graves. Il y a des problèmes humains, il y a des problèmes relationnels, il y a des problèmes conflictuels dus au patron, dus aux enfants. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes spirituels. Cette femme, elle était dans un énorme problème parce que c'était une difficulté spirituelle. Nous, on est là souvent, on ne sait pas faire trop la différence entre les problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie relationnelle, dans la vie matérielle, dans la vie psychique, etc. Les gens ne savent plus quoi penser, mais il y a des problèmes qui sont spirituels. Et cette femme, elle avait un problème grave, sa fille était tourmentée par le démon. Que s'était-il passé ? Alors vous savez, aujourd'hui, pour des problèmes spirituels, on peut aller voir un docteur. Est-ce qu'un docteur peut vous donner un médicament pour chasser un démon ? Bien sûr que non. Vous voyez, ce sont des problèmes qui arrivent. Aujourd'hui, les gens sont complètement dépassés. Alors, certainement que les médecins essaient de faire de leur mieux. Mais comme nous sommes dans un pays rationaliste, où on ne croit pas aux puissances spirituelles, il est évident que ça va être très difficile d'obtenir certaines victoires. Moi, je crois que les médecins peuvent nous aider au niveau physique, certains au niveau psychologique, mais au niveau spirituel, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut véritablement nous délivrer. Cette fille était tourmentée par le démon. Cette femme en était tellement malheureuse qu'elle n'a même pas dit « Aie pitié de ma fille ». Vous avez vu ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? « Aie pitié de moi ». Tellement sa souffrance était grande, elle a demandé à Dieu d'avoir pitié d'elle-même. Vous savez, la douleur que les autres peuvent avoir peut nous atteindre tellement que l'on ait besoin d'être guéri soi-même. Cette femme, vous avez vu ? Vous l'avez vu ? Avec moi, relisez-la avec moi. Vous avez vu, au verset 22, elle dit « Aie pitié de moi ». Moi, ça m'a frappé cette affaire. Elle aurait pu dire « Aie pitié de ma fille ». Oui ou non ? Qu'est-ce que vous auriez dit, vous ? Qu'est-ce que vous auriez dit ? Mais voyez, quand la douleur d'une personne nous atteint tellement qu'on se sent à même de dire « Mais aie pitié de moi ». Sa souffrance était telle que cette fille... Que cette femme s'identifiait à la douleur de sa fille. Alors, comment cette fille, cette jeune fille, en était-elle arrivée là ? Comment, comment ce problème était-il venu? Parce qu'on peut quand même se poser la question, mais comment se fait-il que cette jeune fille était tourmentée par le démon? Comment se fait-il que cette fille était possédée? Alors il est fort possible, c'est très facile à comprendre quand on connaît l'histoire, que cette maman ait dédié sa fille aux choses diaboliques. C'était la coutume à l'époque. Ça arrive encore aujourd'hui, les païens qui offraient aux démons leurs enfants. Ça arrive, ça. Ceux qui ont vécu en Afrique le savent, mais de temps en temps, on en entend parler, même dans des reportages. Tout ça s'est mis sous le nom de la culture, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus grave que la culture. C'est quelque chose de vraiment spirituel. Alors cette petite, elle était emprisonnée là-dedans. Regardez avec moi dans le Deutéronome, chapitre 18. Je crois qu'il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Moi, j'ai discuté l'an dernier avec un professeur qui mettait tout ça dans l'ordre du fantastique. Pour lui, c'était du fantastique. Le spiritisme, il avait fait des séances de spiritisme. Il disait, mais moi, je crois que c'est la cohésion des esprits, les esprits qui se rencontrent, la force du groupe qui fait que les vers se déplacent tout seuls. J'ai dit, mais monsieur, les vers, ils se déplacent pas tout seuls. C'est bien une force, c'est quelqu'un ou quelque chose qui déplace les vers. Un vers, ça se déplace pas tout seul. Et cet homme prenait conscience que c'était la puissance des ténèbres. Il me dit, je comprends pourquoi depuis je suis tourmenté. Vous voyez? Regardez dans Deutéronome chapitre 18. Il y a des choses que Dieu nous interdit, parce qu'elles sont liées à la puissance des ténèbres. Deutéronome chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc Dieu prépare le peuple, les Hébreux à rentrer en Israël. Mais laissez-moi vous dire qu'en Israël, il n'y avait pas que le lait et le miel. Tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Vous voyez le spiritisme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Vous lirez d'autres textes, on n'a pas le temps de le lire ce soir, mais je pense que ça vaut la peine de réfléchir, car ces choses-là sont en abomination. On a parlé de l'homosexualité l'autre jour brièvement. Ces choses-là sont en abomination à l'Éternel. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas bénir un homosexuel qui vient se repentir de ses péchés. Au contraire, nous devons les accueillir. Dernièrement, il y en a un qui est venu, mais je peux vous assurer qu'on l'a très bien accueilli. Tout le monde l'a bien accueilli. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais je bénis Dieu pour la façon dont il a été accueilli. Je crois que nous devons faire la différence entre le pécheur et le péché. Mais ces choses-là sont en abomination parce qu'elles sont liées directement à la puissance des ténèbres. Il faut bien lire la Bible. Vous voyez, il y a des gens, moi j'ai entendu des jeunes dire « Oh, moi l'horoscope, je le lis pour rire. » Alors je ne sais pas ce qu'ils font penser. Moi l'horoscope, depuis que je me suis converti, je ne l'ai jamais lu. Parce que je suis sûr, vous allez me dire « Mais tu exagères. » Eh bien non, je suis sûr que petit à petit, ça nous relie aux choses sataniques. Et cette jeune fille était tourmentée par le démon, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a fallu qu'il y ait quelque chose de satanique qui soit développé et mis en place. C'est comme quand on devient chrétien, on est habité par le Saint-Esprit. Ça ne vient pas tout seul. Quelqu'un ne peut pas dire « moi je suis chrétien, je n'ai pas voulu ». Quand quelqu'un est chrétien, il a décidé de devenir chrétien. Il a décidé de donner son cœur à Jésus. Et les gens qui font du spiritisme, petit à petit, sans s'en rendre compte, ça commence avec l'horoscope, c'est presque marrant, mais je peux vous dire que tout ça, c'est voué à la puissance des ténèbres. Et petit à petit, il faut qu'un pas et un autre, etc. Aujourd'hui, vous voyez, on fait du yoga, mais il y a des gens qui font du yoga. La méditation les amène à ne plus avoir de volonté. Leur volonté s'échappe de leur esprit. Et laissez-moi vous dire qu'il n'en faut pas beaucoup plus pour que quelqu'un puisse être possédé par la puissance des ténèbres. Donc cette femme était dans une souffrance totale parce qu'elle n'avait pas compris que certaines choses peuvent amener la malédiction dans une maison. Ces choses ont été écrites. Elles ont été écrites pour qu'on les prenne en considération. Des personnes pourraient m'écouter pour la première fois et se mettre à rire. Moi, ça ne me fait pas rire du tout. Parce que je sais les malheurs que ça peut poser dans des foyers lorsque les gens sont tourmentés par la puissance des ténèbres. Donc cette femme, elle souffre. La preuve, c'est qu'elle dit « Aie pitié de moi ». Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va-t-il agir? Non. Le Seigneur n'agit pas de suite. Elle fait une prière extraordinaire. Elle s'approche de la manière la plus formidable qui soit. Elle s'approche, aie pitié de moi. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là en disant, Seigneur, tu vois, moi, ce que j'ai fait. Comment vous vous approchez de Dieu? Comment vous vous approchez de Dieu ? Depuis que vous êtes converti ou avant votre conversion, comment vous vous êtes approché de Dieu ? Mais comment vous continuez à vous approcher de Dieu ? Est-ce que vous vous approchez en disant, Seigneur, tu vois, Seigneur, bon, je te le dis quand même, tout l'argent que j'ai donné à l'Église. Comment vous vous approchez de Dieu ? Il y en a qui le font comme ça. Bon, j'exagère un peu. Mais est-ce que Dieu ne nous demande pas d'être toujours humble dans sa présence et de faire attention à la façon dont on s'approche de lui ? C'est très important. Jésus a dit à cette femme, « Femme, ta foi est grande ». C'est quand même un texte qui nécessite que nous nous y arrêtions. Parce que je crois que cette louange, Dieu voudrait la dire à chacun et à chacune. Vous ne croyez pas ? Est-ce que vous n'aimeriez pas partir avec cette assurance que vous aussi, il vous sera fait selon ce que vous voulez ? Bien sûr, ça correspond à la volonté de Dieu. Vous n'aimeriez pas que Dieu vous dise qu'il te soit fait comme tu veux ? Non ? Bon, on va arrêter la réunion. Je répète ma question, je sais que parfois je m'exprime mal. Est-ce que vous aimeriez, écoutez, je parle sérieusement, que Jésus vous dise, homme, jeune homme, femme, jeune fille, qu'il te soit fait comme tu veux. Vous n'aimeriez pas que Dieu vous le dise ? C'est sa volonté. Vous croyez que Dieu, il voulait bénir comme ça ? Il plouffe de temps en temps, il en bénit un. Dieu veut que tout le monde vive dans l'abondance de sa grâce. Et ce soir, je suis convaincu que c'est peut-être la raison de notre réunion, que chacun vous partiez avec cette assurance que si vous développez la même foi que cette femme, vous obtiendrez le même résultat, vous verrez la grâce de Dieu se manifester dans votre vie. On doit s'approcher de Dieu d'une manière humble, toujours, même si on a fait plein de choses pour Dieu. Si on a fait plein de choses pour Dieu, c'est une grâce. Si on a réussi à donner beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu, c'est quoi ? C'est pas une grâce ? Est-ce que ce n'est pas une grâce ? Si on peut servir Dieu depuis 10 ans, 30 ans, 50 ans, est-ce que c'est une grâce ? Mais bien sûr que c'est une grâce. Elle n'a pas dit, regarde comment j'ai fait ceci, regarde comment je fais cela. Tu vois, Seigneur, tu ne peux pas faire autrement que de t'occuper de moi parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. Non, Seigneur, aie pitié de moi. La façon de s'approcher de Dieu. Ce qu'elle savait de Jésus, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui prient. Moi, je voyais déjà, oh, j'ai prié. Vous savez, j'ai prié de tout mon cœur. Vous croyez que Dieu vous entend ? Non. Ah, d'accord. Bon. Vous voyez ? Non, mais ça fait sourire, mais en même temps, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Cette femme, elle s'approche dans un bon état d'esprit. Elle est dans une grande souffrance. Ce n'est pas parce qu'on est dans la souffrance qu'on peut s'approcher de Dieu n'importe comment. Parce que moi, il y a des gens qui me disent, oui, mais vous, si vous saviez la souffrance dans laquelle je suis, vous parleriez peut-être pareil que moi. Des gens qui donnent des ordres à Dieu. Vous voyez ? On a vu ça. Moi, je peux vous dire que je me charge quand même d'expliquer aux gens que ce n'est pas correct. Et les gens m'ont dit, mais monsieur, vous n'allez pas vous mêler de mes prières. J'ai dit, écoutez, moi je vous dis que ce n'est pas comme ça qu'il faut prier. Je souffre, alors vous comprenez. Cette femme, elle était dans une grande souffrance. Elle s'est approchée du Seigneur avec beaucoup de respect. De respect, et puis on voit ce qu'elle sait de Jésus. Donc elle dit, pitié de moi. Et elle ajoute, Seigneur, qu'est-ce qu'elle ajoute ? Il faut m'aider. Fils de David. Donc cette femme, elle montre qu'elle avait compris. Qui était Jésus ? Ce n'était pas un bon enseignant qui enseignait très 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 bien la loi de Dieu. C'est extraordinaire. C'est sûr que Jésus a dû être le meilleur prédicateur et le meilleur enseignant qui n'ait jamais existé. Jésus a été le plus grand prophète qui ait jamais existé. Jésus a été cet homme bon. Est-ce que Jésus a fait du bien ? Bon, on peut dire que Jésus a été un homme bon. Mais pour beaucoup de gens, c'est ça. Même pour certains partis politique, c'est le plus grand socialiste qui ait jamais existé. Écoutez, je pense que là, on a un petit peu débordé. Jésus, c'est le Messie. C'est le sauveur du monde. C'est Dieu descendu du ciel sur la terre. Vous le croyez ? Les gens croient. Vous voyez ? Pour vous dire l'aveuglement, des gens croient à Noël que Jésus-Christ est le fils de Marie, ils croient que Jésus-Christ est le fils de Dieu, et puis quand vous leur dites, mais est-ce que vous croyez vraiment qu'il est Dieu le fils ? Ah non, non. Vous voyez ce décalage à cause d'une approche sentimentale. Jésus-Christ est le fils de David. Elle n'a pas dit c'est le fils de Joseph. Elle a dit c'est le fils de David, c'est le roi. C'est le fils du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Quand vous vous approchez de Jésus, vous vous approchez du Seigneur des seigneurs. Quand vous priez, que ce soit dans votre voiture, que ce soit dans votre bureau, que ce soit dans votre maison, que ce soit dans votre chambre, dans votre salon, où que ce soit, quand vous priez le seul médiateur qu'il y a entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il faut le redire hélas dans nos églises. Il faut redire que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Est-ce que vous le croyez toujours, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ est le seul Seigneur ? Il a créé le monde. Est-ce que c'est écrit qu'il a créé le monde ? Est-ce que c'est écrit, tout a été créé par lui et pour lui. C'est écrit, tout a été créé par lui. Vous pouvez regarder n'importe quelle fleur, le cala, la pivoine, c'est Jésus qui les a créés. Vous le croyez? Voilà. Alors, nous, c'est sûr qu'on est plus concernés par la communion avec Dieu que par la création. Mais il n'empêche que le Seigneur Jésus, c'est le créateur du monde. Bien sûr, dépouillé de la gloire de Dieu, sinon personne n'aurait pu résister. Il s'est fait homme. Et cette femme, quand elle dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David », elle a compris que c'était le Seigneur. C'est-à-dire, pas le Seigneur, comme je répète, pas le gouverneur. Celui qui règne sur tout, sur la maladie, sur la possession, il est le Seigneur. Ce soir, nous n'avons pas affaire à l'église évangélique ou à un pasteur des assemblées de Dieu, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre que par la parole de Dieu, nous avons affaire à ce Dieu qui a le pouvoir sur tout. Vous avez besoin d'un travail? Est-ce que Dieu peut donner un travail à quelqu'un? Est-ce que Dieu peut guérir votre fille qui est malade et tourmentée par la puissance des ténèbres? Comment Dieu va faire? Ma fille, elle est là-bas à La Réunion. Ma fille, elle est aux Antilles. Ma fille, elle est à Paris. Comment je vais faire? Comment je vais... Eh bien, vous croyez que Dieu, il ne sait pas comment faire? Vous avez vu cette affaire? Au moment même, cette petite, elle a été délivrée. La foi de cette femme était totale. Je crois que Jésus-Christ a le pouvoir de bénir. Quand vous vous approchez de Dieu, il faut vous approcher dans un bon état d'esprit, pas avec des raisonnements religieux ou orgueilleux. Il faut s'approcher dans l'humilité et il faut s'approcher en croyant que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. L'autre centenier qui a fait une expérience extraordinaire, il avait compris que Jésus-Christ était Dieu, qu'il avait autorité sur tout. Et il le dit, mais moi je suis qu'un officier, mais je dis à l'un va et il va, je dis à un soldat viens et il vient. Alors dis un mot, il avait compris. De toute façon, pour comprendre l'autorité, il faut se soumettre aux autorités. Tant qu'on ne se soumet pas, et c'est que dans votre cœur qu'on le sait, c'est pas un péché que l'on commet, tiens, j'ai commis un péché, mais là c'est dans le cœur. Si vous croyez que Jésus-Christ, si vous êtes soumis aux autorités, vous aurez de la facilité à croire à l'autorité de Dieu. Et ça c'est important. Tout est venu à l'existence par Jésus. Il règne sur tout. Il le dit avant de remonter au ciel, tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. La troisième chose que fait cette femme, c'est qu'elle exprime clairement sa requête. Il ne faut pas tourner autour du pot, ce n'est pas la peine de faire des prières de 3 heures. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Des fois, on me dit, mais combien de temps il faut prier? Vous voyez? Combien de temps il faut prier? Si je prie 1 heure, est-ce que ça... Vous voyez mais ça, c'est un esprit religieux. Est-ce que ça peut avoir envie? Est-ce qu'on peut avoir envie de passer 1 heure dans la communion avec Dieu? Ça n'a rien à voir. Vous comprenez, je veux dire, on peut avoir envie de passer 1 heure à lire la Bible, à prier, c'est quelque chose d'excellent. Mais pour faire connaître vos besoins à Dieu, il n'y a pas besoin de réciter des litanies. Vous dites, Seigneur, voilà ce problème. Je te confie ce problème, ma fille est malade, je te prie de la guérir. Après, si le lendemain vous avez encore besoin de le reformuler, ça peut arriver. Parce que la Bible dit de persévérer dans la prière. Enfin, que de textes nous enseignent à persévérer dans la prière. Cette femme, elle est dans un problème. Cette femme s'approche bien de Dieu. Cette femme a compris qui était le Seigneur. Cette femme expose simplement son problème. Et pourtant, il nous est dit que le Seigneur ne lui répond pas. Là, on a affaire à toutes ces situations où on a prié, où on s'est bien approché de Dieu, et pourtant Dieu ne nous a pas répondu. Est-ce que Dieu est obligé de nous répondre de suite? C'est une question, ça. Est-ce que Dieu est obligé de nous répondre de suite? Qu'est-ce qui se passe si Dieu ne répond pas? Il y a des gens, parce que Dieu ne leur a pas répondu, c'est terminé. J'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu, je ne crois pas en lui. Je pense que ce n'est pas sérieux. Ça ne prend pas compte du fait qu'il y a un combat. Il y a un combat, vous le savez qu'il y a un combat. Il y a des difficultés, il y a des ténèbres. Donc cette femme, elle se retrouve tout d'un coup confrontée à une situation, Dieu ne répond pas. Vous avez vu dans l'évangile de Luc, où on a lu que les gens venaient et tous étaient guéris. Jésus priait et ils étaient guéris. Cette femme a fait une prière et voilà qu'elle n'est pas guérie. Mes frères et sœurs, soyons conscients que si Dieu ne nous répond pas de suite, il y a une raison. Il y a une raison. Est-ce que vous acceptez le fait que Dieu ne vous réponde pas à la première prière? Eh bien, ça peut arriver. il y a un combat, et parfois l'ennemi fait tout pour que nos prières ne soient pas exaucées. On pourrait prendre plein de textes dans la Bible où nous voyons qu'il y a du retard dans les prières, que l'ennemi fait obstacle à la prière. Il y a véritablement un combat. Le Seigneur ne lui répond pas. À Jéricho, combien de fois ils ont dû faire le tour de la ville pour que les murailles s'écroulent ? 13 fois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ce qu'on n'obtient pas le premier jour, ce qu'on n'obtient pas le deuxième jour, ce qu'on n'obtient pas le troisième jour, eh bien, on l'obtient à la 13e fois. Il faut persévérer. Abraham, combien d'années il a prié pour avoir un enfant ? Il a prié que 25 ans, d'accord ? Voilà, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Joseph, combien de temps il a été dans la galère avant de devenir le gouverneur d'Égypte ? 13 ans. On pourrait prendre les hommes, on voit que des hommes n'ont pas fléchi. Les Hébreux dans le désert, au bout de 3 jours, ils étaient découragés. 3 jours. Au bout de 3 jours, ils ont tout abandonné, ils ont tout perdu. On voit dans la Bible la différence entre les gens qui obtiennent, comme Josué, Caleb, j'ai parlé d'Abraham, j'ai parlé de Josué, et puis les gens qui au bout de 3 jours, oh non, j'en ai assez, je prie plus, j'en ai marre. Non, les gens à qui le Seigneur dira, tu as une grande foi, qu'il te soit fait comme tu veux, ce sont des personnes qui persévéreront. Cette femme, vous avez vu sa réaction ? Parce qu'il y a le silence du Seigneur, il y a le mauvais comportement des disciples, qui disent, vous avez vu, les disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, donc ils ont insisté, renvoie-la parce qu'elle crie. Alors, ça n'a pas plu aux apôtres, ils étaient là tous ensemble, en train de marcher peut-être, et tout d'un coup cette femme s'est pointée et a commencé à exprimer sa requête. Ça ne plaisait pas aux apôtres, peut-être qu'ils avaient besoin de silence, je ne sais pas. Et renvoie-la, quel témoignage, le mauvais témoignage des chrétiens. Est-ce que ça existe ça ? Allez. Dites-moi, est-ce que ça peut arriver, le mauvais témoignage des chrétiens, le mauvais témoignage des pasteurs, le mauvais témoignage des anciens, est-ce que ce n'est pas une vérité ? Oui, c'est une vérité. C'est une vérité et ça peut blesser et ça peut dissuader beaucoup de gens. Lorsqu'on voit un chrétien qui a un mauvais témoignage, quand même on devrait s'appliquer. Moi j'ai vu des chrétiens, moi le premier chrétien que j'ai vu, enfin le deuxième chrétien que j'ai vu, lorsque je travaillais en boîte de nuit, je vous l'ai peut-être déjà dit, je me rappelle, je crois que Dieu m'a vacciné dès le premier culte. Le premier culte où j'ai été, la veille en boîte de nuit, j'avais servi un gars et j'ai appris 8 jours après qu'il se faisait aider par l'église. Pour donner à manger à sa femme et à ses enfants. Et il s'était acheté une bouteille de Chivas. À l'époque, ça valait 300 et quelques francs. 350 francs. Vous voyez, plus de 50 euros. Il y a 33 ans. Et il était là avec son cigare. Et le matin, je te le vois à l'église, devant moi. Les bras levés, Seigneur, je te loue. Et puis, j'ai posé des questions. Je dis, mais ce gars, c'est le gars. Et vous voyez, je me suis dit, bon, j'ai compris. J'ai de suite fait la différence entre la grâce de Dieu et puis le mauvais témoignage des chrétiens. Mais quand même, Jésus parle de ceux qui scandalisent, de ceux qui sont objets de scandale, et le Seigneur est très sévère envers les chrétiens qui scandalisent les autres. Parce que le mot scandale, ça veut dire un comportement qui éloigne les gens de Dieu. Que quelqu'un s'éloigne de Dieu, je ne veux plus de Dieu, je m'éloigne. C'est une chose, mais quand on soit scandalisé par quelqu'un, c'est quelque chose de grave. Mieux valait pour eux qu'on leur mette une meule à leurs pieds et qu'on les jette dans l'eau. Pour vous dire qu'il aurait mieux pas valu que ces gens vivent. C'est très grave d'être un objet de scandale. Mais je pense qu'un chrétien qui a une véritable foi ne se fera pas influencer par les scandales. C'est vrai que c'est pénible. Des gens sont tellement faibles qu'ils vont voir 2 ou 3 chrétiens qui ont un mauvais témoignage. Mais si c'est ça les chrétiens, moi je n'aime pas de l'évangile. C'est sûr que c'est grave. Mais cette femme, Jésus ne lui répond pas. Les apôtres à ce moment-là n'ont pas le meilleur des témoignages. Renvoie-la, parce qu'elle crie derrière nous, elle nous dérange. Vous vous rendez compte, si on vous refusait l'entrée ce soir parce que vous criez, bon, il faut de l'ordre dans une église. Mais ne vous laissez pas dissuader parce qu'un chrétien a un mauvais témoignage. Rappelez-vous-en toute votre vie, votre exemple, ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas les chrétiens qui ont un mauvais témoignage. Notre exemple, c'est le Seigneur Jésus, qui lui ne nous décevra jamais. Donc cette femme, elle doit avancer. Et quelle est sa réaction ? Elle aurait pu dire à un moment donné, mais je me suis trompé. La voisine qui m'a dit que Jésus était ce sauveur qui répondait, mais je me suis trompé, c'est pas possible. Et puis ses apôtres, c'est ça l'enseignement qu'ils ont reçu de nous renvoyer. Elle aurait pu tourner les talons et repartir chez elle. Qu'est-ce qu'elle fait ? On l'a lu tout à l'heure, on le relit. Regardez cette femme qui, après avoir entendu une parole très 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 sévère, qu'on n'a pas développé parce qu'on n'a pas trop le temps, verset 24, Jésus dit à cette femme qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'ailleurs, ce verset, certains l'utilisent pour dire que Dieu ne s'intéresse qu'aux Juifs. Dernièrement, j'ai discuté avec un homme qui m'avait demandé, un homme très riche qui a le cancer, qui m'a demandé d'aller prier pour lui, qui a été guéri. Il a lu l'Évangile, il m'a dit, l'Évangile, c'est pas pour nous. C'est pas pour c'est pas pour les Français, c'est pas pour les gens, c'est que pour les Juifs. Et qu'est-ce que c'est ? Oui, il m'a envoyé un livre d'ailleurs. Il a écrit un livre par rapport à ça. Et il est parti de ce verset que Dieu n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors cette femme, c'est vrai que quand Jésus est venu, il s'est occupé du peuple juif. Mais vous connaissez la promesse, l'Évangile sera prêché à Jérusalem, en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cette femme, elle aurait pu dire, mais je me suis trompée. Ah ben oui, moi je suis une arabe, alors qu'est-ce que Dieu ne va pas me bénir à moi. Qu'est-ce qu'elle fait ? Regardez cette attitude. Mais c'est ça qui vous montrera et qui vous encouragera à ne pas vous relâcher. Mais elle vient, alors là elle fait pire. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se prosterne devant lui, verset 25, disant, Seigneur, secours-moi. Regardez un petit peu comment Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, a voulu que cette histoire soit là dans la parole de Dieu pour nous encourager lorsque les chrétiens nous déçoivent, lorsqu'une parole de Dieu nous la comprenait pas. Imaginez quelqu'un qui vient pour la première fois pour une guérison et qu'il s'entend de dire « Repentez-vous et convertissez-vous et vous serez sauvés. » Pardon ? Oui, repens-toi. Mais je ne suis pas venu pour la repentance, moi ça m'est égal. Moi je suis venu, j'ai besoin d'être guéri. Et il y a des paroles comme ça de Dieu qu'on ne comprend pas. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine d'y réfléchir ? Il y a des paroles que vous ne comprendrez pas. Il y a des gens, moi j'ai lu l'Évangile, j'ai lu dans le Lévitique, et puis mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut commencer. Est-ce que c'est votre livre préféré, le Lévitique ? Vous le lisez tous les jours, le livre de Lévitique ? Hein ? Il y a des choses. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris un verset, ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris une parole, peut-être sur la doctrine biblique, sur la sanctification, la rédemption, peut-être qu'on ne comprend pas tout. Mais ce n'est pas une raison pour refermer la Bible et dire ce vieux livre, j'y comprends rien. Cette femme, elle nous enseigne comment obtenir la bénédiction. Cette femme, elle ne dit pas, moi je me suis trompé, je suis dégoûté, ben, si c'est ça. Non, elle vient et elle se prosterne, c'est-à-dire qu'elle n'est même plus dans la prière, elle est dans l'adoration. Je ne sais pas si vous faites attention. Et mes frères et sœurs, que ça nous encourage, elle a la même souffrance. Sa fille est toujours tourmentée par le démon, elle ne comprend pas. Mais imaginons-nous l'attitude de cette femme qui vient se prosterner, dont elle a dû se mettre à genoux, c'est évident. Parce que dans le contexte, se prosterner sans se mettre à genoux, ça irait pas. Elle s'est mise à genoux. Elle fait ce qu'on dit aujourd'hui, elle ne lâche pas le morceau, elle sait. Elle a compris, elle est convaincue. Et moi, je crois que nous avons un Dieu grand aujourd'hui par son esprit qui est capable de nous convaincre de péché. Est-ce que Dieu est capable de nous convaincre de péché et de nous convaincre de justice ? C'est ça la justice. Est-ce que c'est juste de se prosterner devant Dieu ? Est-ce que franchement, c'est juste pour un homme de fléchir les genoux devant Dieu ? Répondez-moi. Est-ce que c'est juste ? Eh bien, quand quelqu'un est convaincu de justice, c'est ça. La justice, ce n'est pas la justice française, c'est la justice divine. Oui, c'est juste qu'un homme, même s'il n'est pas encore guéri, il se prosterne devant Dieu. Et cette femme, à la place de claquer des talons, elle ne fait pas mieux que de s'approcher du Seigneur encore plus et de se prosterner devant lui. Elle le sait. Si vous croyez que Dieu a tout pouvoir, moi je vous dis que Dieu peut sauver tous nos enfants. Vous le croyez ? Même s'ils sont tourmentés. Même s'ils sont enfermés dans les ténèbres. Est-ce que Dieu a le pouvoir de bénir nos enfants ? Mais oui, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que toutes les familles de la terre soient bénies. Ne désespérez pas. Dites, mais ça fait 3 ans que je prie pour lui. Ça fait 3 ans qu'il empire. Est-ce que c'est déjà arrivé ça ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de constater que plus vous priez pour quelqu'un, plus il empire ? Ça vous est jamais arrivé ? Mais ça vous arrivera. Je vous assure, ça peut arriver. Mais ne vous découragez pas. Prosternez-vous devant le Seigneur. Vous ne savez pas quoi lui dire. Seigneur, je te fais confiance. Parce que quand on se prosterne devant Dieu, en principe, c'est qu'on a vraiment compris qu'il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Et cette femme, eh bien, quelle grâce, Seigneur, secours-moi. Elle répète, Seigneur, secours-moi. Alors, il va l'éprouver, parce que je crois que Dieu peut nous éprouver. Dieu nous bénit. Oui, Dieu nous bénit. Vous croyez que Dieu vous bénira ? Est-ce que vous croyez que Dieu vous bénira ? Oui, Dieu vous bénira, c'est incontournable. Mais vous devez aussi savoir que Dieu vous éprouvera. C'est dans sa souveraineté, il sait pourquoi. Nous, on le sait quand on regarde en arrière et qu'on dit, tiens, oui, j'en avais besoin de cette épreuve, j'avais besoin d'être éprouvé. Dieu va éprouver encore cette femme. Il la connaît, il ne nous tentera pas au-delà de nos forces, etc., etc. Mais il va l'éprouver et il va dire, oui, je n'ai pas bien de prendre le pain, de le jeter au petit chien, c'est de ça friser l'insulte, croyez-moi, traiter quelqu'un de petit chien, c'était la limite. C'est la première fois dans la Bible où on voit Jésus utiliser une expression aussi sévère envers quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme dit, oui, mais les chiens, il mange les miettes. Cette femme, elle a compris. Mes frères et sœurs, ce soir, ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que c'est important d'avoir une foi simple. Une foi simple, c'est une confiance totale que Dieu est souverain. Il voit tout, il entend tout, il peut tout, c'est lui qui vous délivrera. Après, Dieu peut utiliser quelqu'un pour vous aider, Dieu peut utiliser un docteur pour vous soigner, oui. Mais une chose est sûre, en ce qui concerne les choses spirituelles, c'est lui qui a autorité. Et vous devez dire, Seigneur, je t'en supplie, je me prosterne devant toi. Voilà, que vous soyez, parce que c'est pas parce qu'on se connaît à genoux qu'on est prosterné. Il y a des gens qui se prosternent, quand ils se relèvent et qu'ils parlent, on voit bien que c'était juste une position physique. Quand on est prosterné devant Dieu, il y a tout un état de cœur. Il y a vraiment une confiance. Seigneur, secours-moi. Il ne dit pas secours ma fille, guéris ma fille, j'en peux plus. Secours-moi. Tellement elle en souffre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus fait? L'épreuve est terminée. Il y a un moment où l'épreuve doit terminer. Croyez-moi, Dieu ne se moque pas de nous. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'encourage. Ça m'encourage de savoir que lorsque vous priez, lorsque vous êtes là, dans votre salon, dans votre chambre, peut-être assis, la Bible sur vos genoux, en train de lire un texte, la Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit, il ne fait pas que t'entendre, il te voit. Dieu nous voit ce soir. Il voit notre cœur. Il voit si on se dit, oh, mais c'est ce que j'avais besoin d'entendre. J'avais besoin de réaliser la puissance de Jésus. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était un philosophe. J'ai cru que c'était un grand prédicateur. J'ai cru que c'était un enseignant. C'est le Messie. C'est le Sauveur du monde. L'histoire, croyez-moi, nous montrera un jour que vraiment, il est le Seigneur des Seigneurs. Alors, qui ce soir veut faire une expérience avec Dieu? Moi, je vous assure, je lève la main et je veux faire une expérience avec Dieu. Parce que je crois que Dieu peut bénir. Je parlais de nos enfants, parce que nos enfants, c'est un peu ce qu'on a de plus précieux. Non, sur la terre? Non? Oui? Ils sont là? Oui, il y en a deux, trois. Nos enfants, est-ce que c'est important, nos enfants? Est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est important? Vous croyez que Dieu l'aimait, cette femme? Que Dieu est... C'est pour ça que Jésus a été à Tyr et Sidon. Il n'a pas été à Tyr et Sidon pour visiter les vestiges au Liban. Il a été à Tyr et Sidon pour bénir cette femme. Ce soir, la Bible dit qu'il est au milieu de nous pour vous bénir à vous. Je ne sais pas où vous en êtes, mais une chose est certaine. Dieu ne faisant pas de favoritisme, si vous êtes soucieux de la même manière que cette femme, si vous priez, ce n'est pas une question de mots, mais dans le même état d'esprit, si vous ne regardez pas au mauvais témoignage des gens, si vous ne vous heurtez pas parce que Dieu vous éprouve, si vous continuez à dire « Seigneur, moi je te fais confiance ». Je veux lire ta parole, je crois que tout ça, ça a été écrit parce que tu veux me bénir. Oui, mon fils, je prie pour lui, et bien il a empiré. Serait-il tourmenté par le démon? Dieu a le pouvoir de le délivrer. Mes frères et sœurs, nous avons dimanche matin parlé de la grâce. Que la grâce, ce n'est pas que pour le salut. Que la grâce, c'est pour la marche chrétienne. Et ça, je crois, en toute humilité, que le Seigneur m'a montré que beaucoup de chrétiens sont embourbés dans les difficultés parce qu'ils n'ont pris la grâce que pour le salut de leur âme. Et je voudrais vous rappeler que la grâce, ce n'est pas que pour le salut. La grâce, c'est pour le salut et pour marcher avec Dieu. Et ce soir, nous avons un Dieu qui veut vous faire grâce. Ça ne va pas? Ça n'a pas été? Eh bien alors, c'est comme ça. Ce soir, prosternez-vous devant lui. Dites, Seigneur, je veux avoir la foi de cette femme. Parce que, aux mêmes causes, il y aura les mêmes effets. Dieu ne peut pas faire de favoritisme. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui agirait exactement comme la même femme ne serait pas béni? C'est pas possible. Alors là, c'est que Dieu ne nous aime pas pareillement. Mes frères et sœurs, on va incliner nos cœurs. On va s'incliner comme cette femme. On est assis, mais on est prosterné devant Dieu. Seigneur, je veux agir de la même manière. Je veux retrouver cette grâce. Je veux voir tous mes enfants sauvés. Serait-il à Paris? Serait-il aux Antilles? Serait-il tourmenté par le démon? Seigneur, je crois dans la puissance. Oui, je crois, Seigneur Jésus, que tu es le Seigneur des Seigneurs. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, que tu es le Dieu tout-puissant. Rappelez-vous la prophétie d'Ésaïe, voici comment on l'appellera. On l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant, Prince de la paix, Conseiller. Eh bien, c'est ce que j'ai fait ce soir. Je vous ai donné quelques conseils. Je vous ai rappelé quelques-uns de ces conseils qui nous permettront de faire une expérience avec le Seigneur.